Bonsoir pour ces nouvelles rencontres de la médiathèque centrale d'agglomération Émile Zola en partenariat avec la librairie Seran. Notre libraire est arrivé, donc ceux qui voudront acquérir le livre de M. Amalvi pourront le faire et lui faire dédicacer à la fin de cette rencontre. Donc nous avons plaisir d'accueillir Christian Amalvi, que nous avions déjà reçu, je crois, mais il y a très longtemps, dans l'ancienne bibliothèque, je crois. 99, peut-être dans l'ancienne bibliothèque aussi. C'était juste avant de déménager, je crois. Juste avant de déménager de l'ancienne bibliothèque. D'ailleurs, tous les gens qui étaient là, on avait gardé un bon souvenir. Et donc, je vais le présenter. Ça a été présenté, mais je vais le rappeler. Donc, ancien élève de l'école des Chars, docteur en histoire. Ça a été aussi un collègue. Il a été conservateur à la Bibliothèque nationale. Il est maintenant professeur depuis plusieurs années à l'université Montpellier III, Paul Valéry. Et il s'est intéressé depuis de nombreuses années au manuel scolaire, à la mémoire. En s'intéressant bien sûr à la mémoire, il en est arrivé à retrouver les héros de l'histoire de France. Ses travaux de recherche ont donné lieu à plusieurs livres, on ne va pas tous les citer, mais du moins on va en citer deux. Les héros de l'histoire de France, Privat en 2001, Les lieux de l'histoire, Armand Collin en 2005, et puis maintenant on le reçoit aujourd'hui pour un livre très intéressant, très important, chez Larousse, Les héros des Français, controverses autour de la mémoire nationale. Alors, déjà c'est chez Larousse, et donc on peut le lire, je vous engage à le lire et à l'acheter. C'est un livre très accessible au niveau de l'écriture, tout en étant d'une très très grande érudition, mais je veux dire, plus on maîtrise l'érudition, plus on écrit agréablement. Et je pense que c'est intéressant aussi de lire et d'écouter ce type de livre actuellement, avec tous les débats qu'il y a eu sur la mémoire, et d'avoir un petit peu finalement un recul sur plusieurs siècles, et en se disant que dès qu'on parle de héros et de mémoire nationale, c'est quand même toujours souvent passionné, quand même. C'est rarement paisible. Il y a de temps en temps, on le verra peut-être, des héros qui deviennent paisibles, mais des fois ils ne sont pas paisibles à certaines personnes, et puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a une sorte d'équilibre entre les forces morales, les forces politiques de la nation, et qui font que ça devient des... Voilà. Donc, mais je crois que c'est quand même intéressant de le voir. Moi aussi, j'ai été troublé de voir qu'il y avait certains personnages quand même qui ont joué un rôle fondamental mais qui sont un petit peu finalement oubliés et, bon, j'en citerai pas mais j'en pense un ou deux et je me dis qu'ils ont quand même joué un rôle et puis on les oublie un petit peu parce que finalement on aime bien aussi peut-être une histoire, j'allais dire on est peut-être un peu dans une période là c'est mon point de vue personnel un peu un color in odor où on n'aime pas trop le sang finalement, mais bon l'histoire ça se fait pas toujours dans la dentelle. Donc peut-être que ces personnages-là ont quand même aussi leur importance. Mais je vais lui laisser la parole. En tout cas, un livre de scientifique, mais aussi un livre très très accessible pour le grand public. Puis ça se lit aussi comme une histoire. On peut le lire. Bon, moi, je l'ai lu pendant les vacances. Je l'ai lu de la première à la dernière. Mais je veux dire, on pourrait aussi le lire par éléments, si on veut le consulter pour telle ou telle période, tel ou tel personnage. Donc je crois qu'il y a plusieurs façons de le lire. On peut le lire, je crois, à plusieurs niveaux. Donc dès qu'on peut lire à plusieurs niveaux, et puis aussi on peut rebondir en le lisant sur différents points de vue, on révise un peu aussi toute l'histoire de France, parce que d'une façon très, très, très adroite, sans nous rappeler toute l'histoire de France, il nous redonne quand même un ou deux éléments pour que le lecteur ne soit pas perdu quand il parle de ses héros. Donc c'est aussi un petit peu, finalement, j'allais dire l'histoire un petit peu pour les gens qui ont oublié un certain nombre de choses. On rapprend, on se remémore certaines choses. Et puis il y a le plaisir, je le redis, le plaisir quand même, un plaisir de lecture. C'est pas un roman, mais ça peut se lire aussi comme un roman. En tout cas, merci d'être là ce soir, monsieur le professeur.
Alors je reprendrai ce que disait monsieur le directeur il y a un instant, parler de roman. Je dirais que c'est un peu le roman du roman national. Vous savez, quand on parle de l'histoire de France, on parle, et surtout quand on parle des manuels scolaires, que j'ai effectivement beaucoup travaillé, eh bien on a parlé d'une étude, d'une présentation, d'une mise en scène de roman national, depuis Vercingétorix jusqu'à la Résistance, qui formerait un bloc compact et qui serait partagé en quelque sorte par tous les Français. Il y a une cinquantaine d'années, Gaston Bonheur, un fils d'instituteur de la Troisième République, avait publié un très beau livre. Et il me semble que ce livre sur qui a cassé le vase de Soissons, qui est édité encore aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais je l'avais dans la version folio, en version de poche, c'est un très beau livre qui résumait bien ces grandes tendances de ce roman national depuis les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, jusqu'à la Résistance. Alors évidemment, le livre que j'ai publié, qui relèverait de la vulgarisation, et que j'ai, pour certains chapitres que j'ai écrit aussi avec Pierre Barral, que je salue, qui est parmi nous et que je salue, que je voudrais signaler son apport majeur dans ce livre aussi, c'est un livre donc de vulgarisation qui va montrer que derrière ce roman national, eh bien, il y a quelques fissures, il y a quand même des usages des héros qui ne correspondent pas tout à fait à ce que disait Gaston Bonheur d'un consensus autour de ce roman national. On va voir qu'il y a des failles, il y a même des passions, il y a des tensions très vives, et c'est ce que j'ai essayé de résumer dans ce livre. Alors pour nous mettre un peu dans l'ambiance, nous parlerons tout à l'heure de Jeanne d'Arc longuement. Vous avez ici celle qui nous servira un petit peu de fil rouge, c'est-à-dire Jeanne d'Arc dans tous ses états. Là c'est la statue de Reims qui a été édifiée donc dans les années, au début du XXe siècle, quand Jeanne d'Arc commence à synthétiser le patriotisme, la revanche. C'est une Jeanne d'Arc consensuelle, on le remarque au fait qu'elle est à cheval, en armure, et tenant dans sa main une épée qui a l'air de viser l'Allemagne et de diriger la France vers la revanche. Mais on verra qu'il y a beaucoup d'autres Jeanne d'Arc qui ont une dimension non pas patriotique et consensuelle, mais au contraire très partisane, soit dans le sens laïque, soit dans le sens surtout catholique. Voilà. Mais on va garder en mémoire, en attendant, Jeanne d'Arc. Alors, je suis très content de parler dans cette médiathèque Zola, où je n'ai jamais parlé encore, parce que c'est évidemment une des grandes bibliothèques de France et de Navarre, vous le savez. C'est aussi parce que dans le livre, Zola est bien présent. Il y a tout un chapitre qui est consacré à Zola, non pas au romancier, parce que je ne suis pas critique littéraire, j'en suis bien incapable, mais en revanche, à celui qui a été le défenseur, un des premiers défenseurs de Dreyfus, qui s'est battu, certains disent même qu'il est mort à cause de ça, on pense aujourd'hui que sa mort n'est pas une mort accidentelle, mais qu'il a été victime d'une sorte d'attentat, de complot. Et qui n'a, à cause de cette attitude de défense du juste, défense de l'innocent, il n'a jamais pu entrer à l'Académie française, lui qui rêvait d'entrer, et il a été traîné dans la boue. On voit à l'époque d'affaire Dreyfus, j'en parle, je cite des passages de pamphlets écrits par des personnages comme Carandache. Carandache, on le connaît pour ses dessins extraordinaires, mais Carandache était aussi quelqu'un qui s'était engagé contre Dreyfus, dans le camp anti-Dreyfuseur, et qui s'est comporté de manière odieuse à l'égard de Zola, le traînant dans la boue. Quand je dis dans la boue, c'est au sens strict du terme. On a présenté l'œuvre de Zola comme pornographique, parce qu'il présentait les passions de la société française, mais au moment de l'affaire Dreyfus, il a été littéralement traîné dans la boue, on le montrait associé tout simplement à des toilettes, à des WC, on le voyait surgissant, la vérité surgissant du puits. Le puits, c'était les toilettes des WC. Il y avait une vision scatologique il était traîné dans la boue, et quand je dis la boue, je dois dire la merde, pardon ma expression, mais je crois que c'est le terme qui conviendrait pour Zola. Alors, ça donne un petit peu le ton du livre. Les usages des héros ne sont pas des usages, comme l'a dit monsieur le conservateur, ne sont pas des usages paisibles. Ces héros ont servi de révélateurs à des passions françaises. Alors, je voudrais résumer un petit peu le contenu du livre en présentant trois aspects. D'abord, je montrerai ce que je pourrais appeler pourquoi des héros. Pour quelles raisons a-t-on fabriqué des héros depuis l'époque romantique? Parce qu'on peut parler vraiment de fabrique de héros. Les héros français, ils nous sont tellement présents dans notre imaginaire aujourd'hui. On les voit à tous les coins de rue, les statues, les noms de rue, etc. Et pour les statues à Montpellier, nous sommes bien pourvus, vous le savez, grâce à Georges Frêche. Bon, donc ça nous paraît naturel de vivre dans cet environnement héroïque. Or, c'est pas naturel du tout. C'est une construction. Ah. Je ne sais pas si ça s'adresse à nous. Au Panthéon. Est-ce que les héros sont censés partir? Prendre la poudre d'escampette? C'est ce qu'on pourrait appeler la fin de l'histoire, dans tous les sens du terme. Donc je reprends le fil, je voulais dire qu'il y a une fabrication, une construction volontaire d'un panthéon, et j'essaierai de vous résumer pour quelles raisons, à partir de l'époque romantique, on a construit un panthéon, et un panthéon qui n'était pas consensuel, qui est venu, disons, dont le consensus a été créé plutôt récemment. La deuxième partie sera consacrée aux usages. Justement, quels sont les usages? Et comme je ne pourrais pas parler de tous les héros, eh bien, ce sont les usages de Jeanne d'Arc, parce qu'elle me paraît effectivement une personnalité révélatrice, on peut dire, de toutes les passions françaises, de tous les cas de figure d'opposition entre la gauche et la droite, entre les calotins et les laïcs, entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ensuite, le troisième point, là ce sera un peu ma conclusion, eh bien nous essaierons de voir comment les Français ont reçu ce panthéon, c'est-à-dire comment ils l'ont intériorisé, comment ils l'ont vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui est resté extérieur à eux, ou est-ce au contraire, ils en sont devenus les propriétaires, ils ont fait eux-mêmes leur usage personnel et privé. Nous verrons que, grâce aux sondages, grâce au succès des biographies, eh bien certains personnages, monsieur le conservateur l'a dit aussi, ont eu du succès en 1949, puisque les premiers vrais sondages réels ont été faits en 49. Et depuis, donc depuis 60 ans, on a quand même des mesures, on peut vérifier, comparer. Certains personnages ont complètement disparu de la circulation. Et d'autres qui étaient peu importants en 49, eh bien, sont aujourd'hui au zénith. Voilà. Alors, je commence tout de suite donc par parler donc de essayer de vous résumer la fabrique des héros. Et un petit mot simplement avant de parler de la fabrique elle-même, c'est sur quel corpus j'ai travaillé. Alors, on a déjà parlé effectivement, les manuels scolaires ont été largement sollicités. Ernest Lavis avec ses équivalents catholiques, les frères des écoles chrétiennes par exemple, Le Tour de la France par deux enfants, dont vous savez qu'il est un des best-sellers absolu de la littérature française pour la jeunesse, puisqu'il a été vendu entre la première édition en 1877 chez Belin et aujourd'hui, puisqu'il est toujours vendu, c'est plus de 6 millions d'exemplaires, je crois même qu'il y a 7 millions d'exemplaires vendus pendant plus d'un siècle. Alors, la version que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez vous procurer, n'est pas la version originale, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est la seconde édition, celle de 1905, et l'année 1905 et n'est pas faite par hasard, elle a été marquée par une restructuration, par une épuration du Tour de la France par deux enfants. Nous verrons dans quel sens ça s'est passé. Alors, venons-en tout de suite à côté des manuels scolaires, des livres de lecture, j'ai aussi travaillé sur ce que j'appellerais la vulgarisation, c'est-à-dire, par exemple, les biographies de Fayard, puisque vous savez que les biographies de Fayard sont écrites par de grands universitaires, par exemple Jean Tullard, Monsieur Favier, par exemple. Bon. Et ces ouvrages s'adressent au grand public pour mettre en quelque sorte à la disposition de tous, eh bien, les recherches en cours, les recherches universitaires. Et souvent, elles tordent le cou à beaucoup d'idées reçues en montrant que le personnage ne correspond pas à sa mythologie, que ce que disent les manuels, justement, ne correspond pas tout à fait à la vérité. On le verra pour de Colbert, le Colbert de l'histoire ne correspond pas du tout au Colbert de la légende, le fils du long vêtu, tout ça, aujourd'hui, les historiens ont montré que c'était une légende inventée par Lavis pour des besoins de la cause. Donc, c'est le deuxième aspect de mon corpus, l'ensemble des livres de vulgarisation. Troisième aspect, ben, vous l'avez là, ce que Maurice Agulon appelait le folklore républicain, c'est-à-dire tout ce qui, depuis l'époque de la Seconde République, surtout le Second Empire, et encore plus la Troisième République que connaît si bien Pierre Barral, puisqu'il a été l'historien de Jules Ferry, de Gambetta, eh bien, tout ce régime, pour se légitimer, a multiplié en place publique les statues des grands hommes. Vous avez un bel exemple ici. Alors, ce patrimoine a souvent été écorné, a souvent été vandalisé, puisque à l'époque de Vichy, et nous en savons quelque chose ici à Montpellier, toutes les statues de Jaurès, les statues des grands hommes républicains, ont toutes été envoyées à la casse et fondues pour faire des canons. Et Georges Frêche a rétabli sur la place Jean Jaurès, la statue de Jean Jaurès il y a une dizaine d'années, mais il manque évidemment beaucoup de choses, beaucoup de Marianne, mais il n'empêche que j'ai essayé d'étudier un petit peu cet ensemble de statues, les tableaux, qui sont souvent reproduits dans les manuels scolaires, dans les livres, parce qu'ils sont la source de la mythologie. On se fait souvent une idée de Jeanne d'Arc à travers ces représentations, dont les historiens nous disent parfois qu'elles sont sujettes à caution, vous vous en doutez. Alors venons-en au fait, donc, cette première partie. Qu'est-ce que c'est que la fabrique des héros? Pourquoi des héros? La première raison, je dirais, je renverrai à ce qu'on appelait la querelle des anciens et des modernes. Puis je parlerai des usages politiques et religieux. Je parlerai ensuite des usages patriotiques. La première raison, c'est que à l'époque du romantisme, entre les années 1820 et 1830, il a paru évident à tous les intellectuels, je pense à Victor Hugo, fils de son père, le général Hugo, tous ces héros romantiques sont souvent des gens qui ont été marqués par l'épopée révolutionnaire et surtout impériale, parce que tout simplement ce sont des fils de généraux, d'acteurs de premier plan de la légende impériale. Et avec Victor Hugo, un certain nombre de Français, d'élites, d'intellectuels, d'artistes, sont convaincus qu'avec ce qui s'est passé entre 1792 et 1815, même si c'est une défaite, eh bien, les Français ont montré, et à travers eux, les Européens, ont montré qu'ils étaient les dignes successeurs des héros de l'Antiquité. À l'époque de Louis XIV, vous savez que la querelle des anciens et modernes a conclu que Louis XIV était l'héritier d'Antiquité, mais on disait ça surtout pour faire plaisir à Louis XIV. Les véritables historiens étaient convaincus que personne ne surpasserait jamais les exploits d'Hannibal, d'Alexandre, de César, d'Auguste, etc. Or, la preuve est faite, d'après Victor Hugo, et je vous renvoie à tous ses grands poèmes, à tout ce qu'il a écrit sur l'épopée impériale, évidemment, la preuve était faite, et pour Stendhal aussi, qui avait été lui-même un acteur de premier plan, que désormais, l'héritier véritable de César, d'Alexandre, d'Auguste, c'était Napoléon. On l'aime, on l'aime pas, peu importe, rappelez-vous la fameuse ouverture de la Chartreuse de Parme, lorsque les Français rentrent dans Milan après avoir vaincu les Autrichiens, Eh bien, après avoir passé le pont de Lodi, le pont d'Arcole, il est évident pour tous que Napoléon, le général Bonaparte, il n'est pas encore empereur, est l'héritier d'Alexandre et de César. Ça, c'est quelque chose qui va être, je crois, un acquis, et que les romantiques, je pense à Delacroix, je pense à d'autres artistes. Prenons l'exemple de Delacroix. Delacroix n'a pas représenté Napoléon, c'est vrai. Mais lorsqu'au musée de Versailles, dans la galerie des batailles, vous remarquez le tableau de la victoire de Taillebourg, Saint-Louis passant le pont de Taillebourg, pour les contemporains qui assistent à l'ouverture du musée en 1837, pour eux, c'est pas simplement la représentation de Saint-Louis. Derrière Saint-Louis, ils voient l'image du pont d'Arcole, du pont de Lodi, ils voient déjà le mythe de Bonaparte en œuvre. Et Napoléon est bien présent dans cette galerie des batailles. Il y a plusieurs tableaux. Les tableaux qui terminent le cycle des victoires se terminent sur les victoires de Napoléon. Il y a Austerlitz, il y a Wagram, etc. Donc, le romantisme a fait beaucoup pour accréditer cette idée dans au moins les élites, les cercles disons, qui dirigeaient la France, que désormais, Napoléon est bien l'héritier de l'Antiquité. La querelle des anciens et des modernes est réglée, elle est terminée, dans le sens des modernes, au détriment des anciens. Alors, le problème, c'est comment, en quelque sorte, va-t-on passer des élites, des romantiques, qui constituent un cercle restreint, à l'ensemble de la société? C'est-à-dire, comment on va passer aux masses populaires, comment les gens du peuple eux-mêmes vont devenir conscients que Napoléon est soit un héros, soit au contraire un anti-héros, parce qu'il a fait massacrer tous les gens, mais il n'empêche que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il n'empêche qu'il est bien présenté comme le personnage central de son époque. Hein, c'est ça. Alors, la deuxième raison, ce sont les raisons politiques et religieuses qui vont être à l'œuvre, en quelque sorte, à partir du Second Empire et encore plus sous la Troisième République, quand il va falloir se poser la question, est-ce qu'on enseigne cette histoire à tous? Car je le vous rappelle, là aussi, aujourd'hui, cet enseignement, tout le monde le connaît, parce que dès l'école primaire, tout le monde le reçoit. Et qu'en plus, avec la télévision, avec Internet, avec les bandes dessinées, on est tous, je dirais, conditionnés par cette histoire. Mais il faut bien rappeler que dans l'enseignement primaire, l'enseignement de l'histoire n'est rendu obligatoire que sous Victor Duruy, par Victor Duruy sous l'Empire libéral. Et en réalité, faute de moyens, Victor Duruy n'a pas obtenu grand-chose. C'est Jules Ferry qui, dans les années 1880, avec Lavisse comme principal promoteur, va rendre l'histoire de France familière à tous les Français. Donc vous voyez, c'est relativement tardif. Vous me direz, c'est l'enseignement secondaire. Oui, l'enseignement secondaire, depuis la Restauration, on enseigne effectivement des rudiments. C'est pas extraordinaire. C'est surtout une histoire de date, de bataille, mais c'est une histoire prudente. On s'arrête en 1789, parce que précisément, on estime qu'au-delà de 89, c'est trop risqué, c'est trop sensible. Et effectivement, des gens connus ont eu des ennuis parce qu'ils ont voulu outrepasser deux anecdotes pour montrer que avant la Troisième République, il est dangereux de s'aventurer sur le terrain de l'histoire de la Révolution. Ça peut vous valoir de gros ennuis. Nous sommes en 1852, et le philosophe Hippolyte Taine, il n'est pas historien, mais il est philosophe. Il a une classe donc de terminale, et il veut enseigner à ses jeunes élèves la puissance de l'éloquence. Il veut montrer comment l'éloquence peut transformer les foules, peut transformer l'opinion. Et il choisit un bel exemple. Il va choisir l'exemple de Danton, qui reçoit les femmes de la Halle. Les femmes de là lui disent « on ne peut pas que nos enfants aillent se faire tuer aux frontières ». Danton leur tient un discours tellement persuasif qu'elles elles partent en remerciant Danton que leurs enfants aillent se faire tuer pour la patrie. Bel exemple choisi. Problème pour Taine. Dans la salle, dans sa salle de cours, il y a le fils d'un émigré, un aristocrate, qui va raconter tout ça à son père, qui est furieux, va voir l'évêque. Nous sommes au lendemain de la loi Fallou. Je rappelle que la loi Fallou a donné la surveillance de l'enseignement secondaire aux évêques et la surveillance de l'enseignement primaire au curé. L'évêque fait son rapport au ministre de l'instruction publique, qui va muter d'office Taine. C'était à Poitiers, je crois, on va le muter dans une autre ville. Et encore, on prend des précautions par rapport à Taine. Il est normalien, mais le ministre lui fait savoir qu'à la prochaine incartade, ça sera la porte. Donc vous voyez que l'exemple était bien choisi, mais les conséquences ont été plutôt rudes pour Hippolyte Taine. Ça se reproduira 20 ans après, 25 ans après, sous l'ordre moral. L'ordre moral, ben, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est la tentative de retour de l'ancien régime et la puissance de l'Église. Là, c'est Ernest Denis. Ernest Denis, vous le connaissez, c'est un historien de Nîmes. Il a sa statue encore aujourd'hui à Nîmes, tout près de la Maison Carrée. Et il est professeur au lycée d'Angoulême, l'évêque d'Angoulême est légistimiste, et dans son cours, devant ses élèves, là, on commence à parler un petit peu de la Révolution, mais avec beaucoup de précautions, et il dit carrément à ses élèves que Louis XVI a été justement condamné par la Convention et justement exécuté. Que c'est pas un procès politique, c'est un procès tout à fait valable. Là aussi, on rapporte les propos à l'évêque, légitimiste, fureur, qui va rapporter ça au ministre, qui va muter d'office Ernest Denis à Paris. qui aura ensuite une brillante carrière, puisqu'on dit de lui qu'il était l'historien de la Bohème et même l'inventeur, après le traité de Versailles, de la Tchécoslovaquie. Mais c'est vous dire que ces deux historiens brillants, deux normaliens brillants, Taine et Denis, ont eu des ennuis pour s'être aventurés sur ce terrain de la Révolution. Donc c'est vous dire que c'est bien une invention, cet enseignement. Et c'est bien la Troisième République qui va en faire une institution quasiment sacrée. Alors pourquoi cet investissement? Il y a d'abord des raisons politiques. Tout simplement parce que il faut montrer que la République n'est pas le fruit du complot. Que ce soit la première, que ce soit la seconde, que ce soit la troisième, les adversaires, les légitimistes, les catholiques intransigeants, considèrent que la République est le fruit des complots. Complot maçonnique, complot juif, déjà, complot protestant, ajoutez-y, pourquoi pas les templiers, tamponniers, etc. Donc il faut répondre à cette accusation. La République n'est pas un régime imposé soit par l'étranger, comme c'est le cas en 71, elle est le fruit des siècles, elle est l'aboutissement de toute l'histoire de France. Il s'agit donc de montrer que dans le passé, eh bien, on a commencé des révolutions qui ont souvent avorté, mais qui ont laissé comme le petit poussé des traces. Et qu'ensuite, ce petit filet d'eau révolutionnaire est devenu cet immense fleuve qui a tout emporté sur son passage. Donc, l'enseignement est là pour rappeler que dès le XIIe siècle, les communes, au XIVe siècle, Étienne Marcel, et puis la réforme, avec la réforme de Luther et de Calvin, eh bien, les premiers pas ont été posés qui ont abouti à la révolution. Et ce n'est pas seulement les historiens qui le disent, les littéraires. Rappelez-vous Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors quand on parle de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris du Moyen-Âge, évidemment, on pense toujours aux aspects folkloriques, aux aspects pittoresques du roman, la cour des miracles, etc. Bon, la personne avec l'héroïne avec sa chèvre, bon, le Phébus et ses galanteries. Bon, mais en réalité, chez Victor Hugo, tout ça est tout à fait secondaire. Le centre du roman, c'est le chapitre qui s'appelle « Ceci tuera cela ». Ceci, c'est-à-dire l'imprimerie, va tuer l'Église catholique, l'esprit catholique, va abattre comme un bélier la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui symbolise l'esprit dogmatique, le dogme, l'Église catholique. Et pour les républicains, ils en sont convaincus, eh bien, c'est l'imprimerie qui a contribué à préparer le terrain à la Révolution française. Et il faut donc en rendre, en quelque sorte, diffuser cet enseignement dans la société française pour que les petits Français soient bien convaincus que la Révolution, eh bien, c'est la conclusion. Je parlais de la fin de l'histoire, on a beaucoup parlé de la fin de l'histoire après la chute du mur de Berlin. Eh bien, déjà, avec la vie, on considère que la Révolution, c'est la fin de l'histoire. C'est l'avènement de la République, il y a eu quelques ennuis après, quelques avatars, mais avec la Troisième République, cette fois-ci, qui est légitimée par le suffrage universel, la boucle est bouclée, la République va, en quelque sorte, assumer tout le passé, le dépasser et surtout, eh bien, entreprendre de réaliser dans le village français, c'est ce qu'appelle Maurice Agulon, la République au village, faire en sorte que la Révolution soit familière, soit présente avec ses statues, celle de Jeanne d'Arc, celle de Marianne, etc. Donc, les volontés politiques, d'abord, de la gauche républicaine, implanter la Révolution, la légitimer par l'histoire. Alors, bien entendu, les légitimistes et les catholiques ne resteront pas inertes. Puisque nous sommes dans un pays libre, les manuels confessionnels vont en faire entendre un autre son de cloche. Eux, ils vont en quelque sorte prendre le contre-pied du Lavis. Il y a la version jacobine, édulcorée par Lavis, qui pratiquerait ce que j'appellerais la sélection, le tri sélectif des héros, des personnages, en fonction des intérêts de la République. Et les légitimistes, les catholiques légitimistes, vont répondre en disant « On a accusé l'ancien régime, on l'a accusé de tous les péchés, de tous les maux, d'avoir asservi le peuple, d'avoir abruti le peuple. C'est pas vrai. La France peut être fière de son passé et monarchique et catholique. Et on va opposer à la France de la Révolution, la France de Clovis, la France de Saint-Louis, la France d'Henri IV, la France de Louis XIV. Donc il y a deux panthéons qui vont se faire face, qui vont s'opposer avec ce que j'appellerais un petit tronc commun, pour parler un langage universitaire, mais un petit tronc commun qui est souvent réduit aux acquets, qui est réduit au strict minimum syndical. Puisque tous les élèves doivent passer le certificat d'études, ils doivent connaître évidemment le passé dans sa continuité, et ils vont s'efforcer, dans les manuels confessionnels, on va s'efforcer de donner à chacun le minimum qui lui permettra de consensus, qui permettra de réussir cet examen. Mais c'est tout. Au-delà, il y a deux versions qui s'affrontent, et quand les manuels sont relativement confessionnels, les livres de lecture, le tour de la France par deux enfants, par exemple, ne le sont pas du tout. Chacun prêche pour sa paroisse, si j'ose dire, et on va rétablir les choses. Raison religieuse, j'en ai déjà dit un petit mot, je confirme simplement, il y a aussi deux conceptions qui s'affrontent, les républicains qui s'appuient sur la réforme, sur Luther, Calvin, en disant, ils nous ont débarrassés des dogmes de l'Église, les philosophes du XVIIIe siècle sont des héros qui ont en quelque sorte achevé le travail de la réforme pour libérer l'esprit humain de ce poids dogmatique. On peut dire qu'il y a eu, dans le Tour de la France par deux enfants, dans les ouvrages laïques, évacuation du religieux et transfert, je dirais dans un instant, du religieux sur le sacré patriotique. Alors, évacuation du religieux, eh bien, si vous prenez deux versions du Tour de la France par deux enfants, vous verrez tout de suite, la version de 1877, vous avez Saint-Bernard de Clairvaux, puisque c'est des héros, c'est des panthéons régionaux. Les deux enfants qui partent de l'Alsace pour lui tourner le dos vont partir à la recherche d'un oncle qu'ils ne verront qu'à la fin et vont donc traverser les provinces. Et chaque fois qu'ils traversent une province, eh bien, c'est l'occasion pour l'auteur de dresser l'inventaire des grands hommes, des grands patriotes de la province. En Bourgogne, les grands hommes s'appellent Vauban, mais s'appellent aussi Saint-Bernard de Clairvaux, que l'on voit prêchant la paroisse, prêchant la croisade. Et nous avons aussi Bossuet, qui est d'ailleurs plus considéré comme un immense orateur littéraire, un des grands écrivains du XVIIe siècle, plutôt qu'un ecclésiastique, mais n'empêche qu'il est présent. Bon, dans le sud-ouest, eh bien, le grand homme, c'est Saint-Vincent de Paul. Dans le nord, c'est Fénelon. Vous avez là quatre ou cinq personnages quand même importants parmi les ecclésiastiques. Parmi les monuments, les enfants arrivent à Paris et visitent Notre-Dame de Paris, qui est moins la cathédrale de Paris que un temple où on a accroché tous les oriflammes, tous les drapeaux conquis par les armées françaises à toutes les époques. Mais c'est Notre-Dame de Paris. Eh bien, et à Reims, vous avez la cathédrale de Reims. Bon, quand vous prenez l'édition de 1905, les personnages ont disparu. Saint-Bernard a disparu, Bossuet a disparu, Fénelon a disparu, Saint-Vincent de Paul a disparu. Les cathédrales ont disparu. La cathédrale de Reims est remplacée par Turenne et la cathédrale Notre-Dame de Paris est remplacée par le zoo, enfin pour un autre monument, je ne sais plus, ou par rien du tout. Enfin, en tout cas, tout le religieux a été évacué. Et on est allé très loin, puisque dans la première version, les enfants disaient « Oh mon Dieu !» et là, ils disent « Bien sûr » ou « Pourquoi pas ?» etc. Donc on a même supprimé les locutions populaires qui pourraient éventuellement avoir des dimensions religieuses. Donc vous le voyez, la création de ces héros, c'est bien un choc religieux. Les catholiques vont exalter dans leur livre Saint-Bernard de Clairvaux. C'est l'époque où Montalembert va publier son histoire des moines d'Occident, non pas par intérêt historique, mais tout simplement pour dire mais ces moines ont leur place ici, au XIXe siècle, dans notre société, puisqu'ils ont été évacués par les rois. Les jésuites ont été chassés par Louis XV, puis les ordres religieux ont été chassés par la Révolution. Montalembert plaide pour leur retour dans la société en disant « Pourquoi pas ?» puisque c'est eux qui ont sorti la société de mérovingienne de la barbarie. Ce sont les moines d'Occident qui ont sauvé l'héritage antique. Pourquoi ? À cause, grâce à ce qu'ils ont fait, n'accepterait-on pas par tout simplement gratitude, reconnaissance ? Accepter qu'ils reviennent dans la société. Je vous rappelle qu'à l'époque, lorsque les dominicains vont être réintroduits dans la société française, eh bien, on craint des troubles. Louis-Philippe craint des troubles. Bon, finalement, parce que les dominicains, nous le savons dans le Midi, nous en savons quelque chose, ce sont les inquisiteurs. Bon. Et puis, finalement, les choses se passent plutôt bien. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette suspicion, si les ordres religieux reviennent dans la société contemporaine, ce sera pour y rétablir l'inquisition, ce sera pour y rétablir la puissance du dogme de l'Église. Bon. Donc, on est bien en présence d'un conflit religieux, les manuels laïcs, évoquant, eux, les victimes, Calas, toutes les victimes de l'Inquisition, les victimes de ces ordres religieux. Donc, voyez, on est quand même au cœur d'un débat, et ce débat, il est bien sûr lié à 1905, le fait que le Tour de la France par deux enfants ait été corrigé, épuré en 1905, n'est pas un hasard. Et pour bien comprendre ces enjeux, d'ailleurs, vous avez le Dominique Fernandez qui a consacré un très beau livre à ses parents. Sa mère était institutrice laïque et son père était Ramon Fernandez, qui est devenu un fasciste, comme vous le savez. Eh bien, il a consacré un très beau livre à sa mère et où il parle justement de cette laïcisation du Tour de la France par deux enfants. Alors, évacuation du religieux, transfert du religieux et du sacré sur le patriotisme. J'en viens à mon troisième point, la troisième raison qui va expliquer pourquoi cet enseignement de l'histoire qu'on a prudemment écarté de l'enseignement primaire jusqu'à la fin du Second Empire, va devenir un élément moteur, un élément majeur avec la vis, avec la Troisième République de Jules Ferry. Eh bien, c'est que la défaite de 70 s'est passée par là. Il y a un leitmotiv qui revient chez les pédagogues de la Troisième République, c'est l'instituteur prussien qui a gagné la guerre. Parce que les Allemands savaient pourquoi ils se battaient, ils savaient lire des cartes, ils avaient la foi sacrée dans le cœur, ils voulaient l'unité allemande, les Français ne connaissaient pas toujours la langue française, Certains soldats bretons étaient incapables de comprendre les ordres de leurs officiers en français, parce qu'ils ne parlaient pas la langue française. Et puis, le patriotisme, l'idée de se battre pour sa patrie, était totalement inconnu. Et donc, on va essayer de transcender un petit peu tout ça. Et l'enseignement de l'histoire, qui était donc tout à fait marginal, qui était facultatif depuis Guizot, va devenir, on peut dire, le nœud, on peut dire, l'enseignement fondamental de la Troisième République. C'est presque, je dirais, en reprenant les mots de Mona Ouzouf, je crois que vous l'avez reçu ici même, Mona Ouzouf parlait de bréviaire, le petit Lavis, c'est le bréviaire de la patrie, c'est le bréviaire de la République, on pourrait parler d'évangile laïque, d'évangile républicain, on peut employer tous les mots contraires. Elle-même emploie, à propos du Tour de France par deux enfants, le terme de petit livre rouge, en pensant évidemment à ce petit livre rouge de Mao Tse-Tung, même si ça n'a pas grand rapport, mais tout cela est vrai, c'est devenu l'enseignement fondamental. Je dirais même que Lavis va transformer le manuel d'histoire en catéchisme laïque. Désormais, l'histoire de France est devenue une histoire sainte, une histoire sacrée. Et j'anticipe un peu sur la troisième partie, si ça a si bien marché, c'est que Lavis a un don pédagogique extraordinaire. Quand il s'adresse à la fois aux parents et aux enfants, il leur dit au fond, l'histoire de la France, l'histoire de la conquête de ce territoire qui va devenir la France, eh bien, elle ressemble à l'histoire de la propriété de vos ancêtres. Bon, au départ, il y a un petit lopin de terre, et puis grâce aux efforts que fait l'ancêtre, il va acquérir le petit lopin à côté, il va élargir les bornes, etc. Eh bien, Lavis va dire aux enfants, ce qu'ont fait vos ancêtres, c'est ce qu'ont fait les rois de France. Philippe Auguste a réussi à prendre à la Normandie à Jean Santerre, qui était un méchant homme, et puis il y a eu la conquête au XIIIe siècle, la conquête c'est nous, c'est le Midi, et là, il ne faut pas se faire d'illusions, les horreurs de l'Inquisition, c'est passé par pertes et profits. On considère que ou on met ça sur le compte de l'Inquisition, c'est la faute à l'Église, mais Lavis dit que c'est très bien que la monarchie française soit étendue jusqu'à la Méditerranée. Bon, les massacres du XIIIe siècle, de Béziers et d'autres, sont passés un petit peu par profit et perte, vous le savez. Bon. Mais il n'empêche que cette vision, elle est très concrète. La France s'est construite comme une ferme, et bien entendu, de temps en temps, il y a de mauvais voisins qui s'efforcent d'aller subtiliser les bornes et de les enlever et de les déplacer. C'est quelque chose qui est bien connu dans les campagnes, vous le savez. Eh bien, ces méchants voisins, c'est les Allemands, c'est les Italiens, c'est les Espagnols, etc. Donc, l'histoire de France présentée sous cet angle-là, je dirais de manière rurale, agricole, eh bien, va parfaitement réussir. Et puis, bien entendu, ce qui permet de fonctionner, c'est le certificat d'études. Jules Ferry, et là, je parle sous le contrôle de Pierre Barral, bien sûr, Jules Ferry a eu cette intelligence de faire du certificat d'études un élément essentiel de la promotion sociale pour les garçons et pour les filles. Et donc c'est comme ça que beaucoup d'enfants entreront ensuite dans le primaire supérieur qui leur permettra de passer des petits concours ou de passer par l'école normale de Saint-Cloud, devenir à leur tour directeur d'école primaire, directeur d'école ou professeur enseigner à leur tour aux futurs instituteurs. Donc vous le voyez, le patriotisme est aussi un des éléments moteurs qui explique pourquoi l'histoire va devenir une matière essentielle. Alors j'en viens maintenant à ma deuxième partie, c'est-à-dire les usages, pour vous montrer des images, parce que je crois que c'est le plus intéressant, c'est le plus parlant. Quels ont été les usages? J'en ai déjà dit un mot. Chaque camp va évidemment présenter ses personnages avec prédilection et va dénoncer, va stigmatiser les personnages, ce qu'on appelait les réprouvés. Dans le camp catholique, les réprouvés, c'est évidemment tous les hérétiques, les manichéens, les albigeois, c'est les réformés, c'est Luther et Calvin. Dans mon texte, dans mon livre, j'ai cité quelques livres sur Luther et Calvin. Bon, c'est pas l'œcuménisme. Aujourd'hui, nous sommes heureusement ici dans le Midi habitués à ce que luthériens, catholiques, juifs, musulmans vivent en bonne intelligence. Bon, il y a un peu plus d'un siècle, Luther est dénoncé et les accusations qu'on porte sur lui, sont au-dessous de la ceinture. C'est-à-dire que c'est par ambition, c'est par une sexualité débridée qu'il a voulu se faire pape, en quelque sorte, devenir lui-même un créateur d'église. Comme il ne peut pas se marier, mais il a décidé qu'il deviendrait un fondateur d'église et il s'est débarrassé. Mais les raisons invoquées sont des raisons tout à fait mauvaises. C'est un pervers, c'est un mauvais bougre, et Calvin, c'est pareil. Bon. On laisse entendre dans ses livres que Luther est en quelque sorte la préfiguration de Danton, il se ressemble physiquement, et que Calvin ressemblerait plutôt à Robespierre. Et le parallèle, vous vous en doutez, je n'ai pas besoin d'insister, n'est pas bienveillant du tout, hein, au contraire. Voilà. Alors, une idée, avant d'aborder ces images, une idée qui me paraît que j'ai réfutée dans ce livre. Même chez des historiens tout à fait remarquables, vous avez cette idée souvent qui vient, que, en définitive, les Français sont divisés sur le plan religieux, les Français sont divisés sur le plan politique, la gauche et la droite, on le voit bien aujourd'hui, mais l'histoire, le récit de l'histoire, c'est une manière de transcender ces clivages. Au fond, tout le monde se retrouverait dans le récit de l'histoire, c'est ce que dit Gaston Bonheur, c'est le roman national, de Vercingétorix à Jean Moulin, on s'embrasse et on transcende, on dépasse les conflits de mémoire et d'histoire. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Je vois pas très bien d'ailleurs comment des Français qui s'opposent sur le plan politique pourraient ceux qui disent que Voltaire soit est un héros, soit au contraire quelqu'un qui est responsable de la terreur, qui est l'ancêtre de Robespierre, pourraient se trouver d'accord sur l'histoire. C'est pas possible. Je crois qu'au contraire, la mise en scène du passé, que ce soit dans les manuels scolaires ou dans les livres de vulgarisation ou dans les livres grand public ou dans les statuts, ben, c'est une prolongation des conflits politiques. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Maurice Agulhan le voit. Les combats autour de Marianne, Marianne était considérée comme une gueuse il y a 100 ans. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve autour d'elle parce que justement, le passé, la République a fini par devenir familière, populaire, mais elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Maurice Agulhan cite des passages de Marianne, des statues de Marianne dans le Midi, ben, à Puylaurens, la patrie de Georges Frêche, où quand les bigotes passent devant une statue de Marianne, elle se signe en disant « à quel pouton ». Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de traduire ce que ça veut dire. Bien. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Le passé, en France, ne réconcilie pas, mais je crois plutôt qu'il amplifie les antagonismes. Et je crois que la meilleure manière de le voir, c'est de parler un petit peu de Jeanne d'Arc. Alors, avant de montrer des images de Jeanne d'Arc que vous attendez, un petit mot sur sa mise en scène. Là aussi, Jeanne d'Arc, elle nous paraît familière aujourd'hui parce que des orateurs tonitruants viennent la saluer au mois de mai chaque année régulièrement, ou aussi parce que des films, je pense à Luc Besson, font des entrées auprès des jeunes. Bon. Mais Jeanne d'Arc, c'est une construction. L'histoire de Jeanne d'Arc est une construction. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, je reprends ici le livre qui a été publié par un ami allemand, Gerd Krumeich, en 1993, chez Albin Michel. C'est Jeanne d'Arc dans l'histoire, où finalement c'est lui qui a étudié mieux que les Français, parce que nous on est collé à Jeanne d'Arc, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression. Je veux dire qu'on est pour, on est contre, mais on n'a pas assez de distance par rapport à elle. Bon, lui, étant allemand, a pu se permettre de prendre cette distance par rapport à Jeanne d'Arc et de dire, ben voilà, finalement Jeanne d'Arc, elle apparaît, elle commence à apparaître timidement autour de la Restauration, pour des raisons romantiques. C'est sous Louis XVIII qui va contribuer à racheter la maison familiale, qui est toujours en place à Don Rémy, et qui effectivement, je crois, la maison, je parle sous le contrôle de Pierre Barral, qui est un peu lorrain, et qui est, je crois, la maison d'origine, un petit peu retapée, bien sûr, qui a été ainsi achetée grâce à Louis XVIII par le Conseil Général des Vosges, qui est toujours propriétaire, et qui permet la visite. Et c'est à partir de 1830, avec le romantisme, que Jeanne d'Arc commence à entrer dans le Panthéon. Mais chez les catholiques, par exemple, ça peut nous surprendre, mais chez les catholiques, c'est pas la personnalité principale. À l'époque des années 1830 ou 1850, on considère dans le camp catholique que Sainte Clotilde, par exemple, ou Blanche de Castille ont eu un rôle beaucoup plus important, ou que Sainte Jeanne de Chantal au XVIIe siècle ont eu un rôle beaucoup plus important dans l'histoire que Jeanne d'Arc. D'ailleurs, certains orateurs catholiques disent que si elle est morte, c'est pas la faute de l'Église. Bon, il y a eu Cochon, vous le savez, mais Cochon, c'est vraiment, on en fait un personnage isolé. On dit que tout simplement, Jeanne d'Arc est responsable elle-même de sa mort. Elle a oublié que ses voix lui avaient fixé une mission, libérer Orléans et faire sacrer le roi à Reims. Cette mission était limitée à ça. On parle de mission limitée. Ce n'était pas, comme le disent certains, de libérer la France des Anglais, c'était d'abord de rétablir le roi sur son trône. Et donc Jeanne d'Arc ayant été mettre imprudemment le siège devant Paris, puis étant allée combattre jusqu'à Beauvais, eh bien c'est elle-même qui est responsable de ce qui est arrivé. Ce qui permet évidemment de défausser l'Église, la monarchie, et la noblesse de toute responsabilité. Je n'ai pas besoin de vous dire que les laïcs, Michelet en tête, Jules Quichera qui va devenir l'éditeur du procès de Jeanne d'Arc, qui est un chartiste, eh bien, ne sont pas de cet avis. Ils vont considérer que la mission de Jeanne d'Arc est bien de libérer la France, et que si elle n'est pas parvenue, la noblesse, par jalousie, comment une femme sortie de la paysannerie, une fille du peuple peut-elle commander des armées? C'est impensable. Elle n'a aucune compétence pour ça. Bon. L'Église catholique, elle s'adresse directement à ses voix. Les réformés feront remarquer qu'elle est une ancêtre de Luther. Elle passe par-dessus l'Église. La monarchie, bah, qui n'a pas le beau rôle. Charles VII est un roi présenté comme mou, entouré par ses maîtresses qui ne pensent qu'à ses plaisirs. Le roi de Bourges, le pauvre roi de Bourges, et qui n'a pas vraiment envie d'aller se battre, et qui n'a rien fait une fois que Jeanne d'Arc est prisonnière des Anglais pour la libérer. Donc, du côté de la gauche libérale et laïque, on va accuser ces trois institutions d'avoir tout fait pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher Jeanne de réaliser sa mission. Et Mgr Dupanloup, nommé évêque d'Orléans en 1849, va se rendre compte qu'il y a un danger d'assister tout simplement, à cause de Michelet, à cause de Quichera et de leurs élèves, à une canonisation laïque de Jeanne d'Arc par les libres penseurs. Une sainte Jeanne d'Arc de la libre pensée. Vous imaginez le scandale. Et c'est là que le Monseigneur Dupanloup va rétablir les choses. Il va d'abord commencer par inviter tous ses amis, et comme c'est une puissante personnalité, c'est un peu, je me fais un anachronisme, le Monseigneur Lustiger de l'époque, de son siècle, il invite tous les cardinaux archevêques à venir prononcer le grand discours dans la cathédrale d'Orléans, tous les 8 mai. On le faisait depuis le Moyen-Âge, mais comme les orateurs étaient médiocres, c'était tombé en désuétude. Depuis, à partir du moment où Dupanloup est là, chaque année, le discours va avoir un retentissement énorme. Je ne dis pas qu'il diffuse sur Internet, bien entendu, mais enfin, disons, la presse en parle, tout le monde en parle, parce que les orateurs sont des orateurs brillants. Et puis, surtout, Dupanloup a compris que si on voulait couper l'herbe sous le pied des laïcs et des libres penseurs, eh bien, il fallait demander à Rome de porter Jeanne sur les fonts baptismaux, sur les autels. C'est-à-dire que pour empêcher la canonisation laïque, il fallait que l'Église fasse son travail de canonisation, tout simplement. Et en 1869, il lance donc un procès, et vous savez que l'Église prend son temps. Son symbole, c'est la tortue, puisque ça ne boutira qu'en 1920, donc 50 ans après. Mais il n'empêche que Monseigneur Dupanloup, c'est qu'en lançant ce mouvement, il va certainement récupérer la mémoire de Jeanne d'Arc. Et c'est ce qui va se produire. En 1894, on voyait déjà, plus de 25 ans après, l'Église déclare, après une enquête approfondie, que Jeanne est déclarée vénérable, c'est-à-dire que tout est possible. On peut en rester là, bien entendu, mais c'est aussi une ouverture. Et progressivement, les orateurs catholiques vont commencer à parler de Jeanne presque comme une sainte. Ils ne peuvent pas le faire, puisque ce n'est pas encore le cas. Mais on commence à dire que Jeanne est vraiment une héroïne centrale. Ma conviction, c'est qu'en étudiant toute cette production édifiante, depuis la chute de Napoléon III, elle prend dans la mémoire collective française, notamment parmi les catholiques, la place de Napoléon. Napoléon était vraiment le grand héros romantique que les catholiques avaient récupéré. Après Sedan, il le laisse tomber parce que c'est difficile de célébrer Napoléon après Sedan. Eh bien, Jeanne d'Arc va prendre le relais. Elle prend le relais à la fois de Napoléon et de Saint Bernard, qui cesse d'être la grande figure religieuse. Jeanne d'Arc occupe tout le terrain désormais parmi les catholiques. Et elle va prendre un terrain d'autant plus important qu'avec l'affaire Dreyfus, un certain nombre de catholiques vont franchir la ligne rouge et faire de Jeanne d'Arc tout simplement le porte-drapeau de la France nationaliste, de la bonne France, de la vraie France, contre la France enjuivée, contre la France des francs-maçons. On va associer maçons et juifs. Et Jeanne, malgré elle, n'y peut rien, va devenir le porte-parole, le porte-drapeau de cette France anti-Dreyfusarde contre la France Dreyfusarde. Et donc là, il y a une espèce de basculement, on peut dire désormais, on est très loin, vous vous en doutez, de Michelet, de Quichera et du reste. 1909, Jeanne est portée désormais sur les autels, elle est déclarée bienheureuse, là le point désormais, et c'est important, parce qu'à partir du moment où elle est bienheureuse, l'Église va pouvoir lui élever des statues. Et c'est de là que date Malraux à parler des 20 000 statues de Jeanne. Je dis les statues, c'est non seulement celle-là, et même encore celle-là est consensuelle. Mais ce sont les statues qui sont dans les églises, dans les chapelles, dans les petits séminaires, dans les écoles confessionnelles. Et 20 000, étant donné qu'il y a plus de 30 000 communes en France, ça paraît tout à fait vraisemblable. Je pense même qu'on est plus proche de 30 000 que de 20 000. Bon. Et en 1920, vous le savez, eh bien, au lendemain de la guerre, de la victoire de la France sur l'Allemagne, eh bien, il y a en quelque sorte des retrouvailles entre le Vatican et Paris, renvoi d'ascenseur. Paris envoie désormais, Paris avait rompu ses relations diplomatiques avec Rome, on envoie un ambassadeur à Rome et, comme le dit le canard enchaîné avec élégance, renvoi d'ascenseur, le canard enchaîné souligne que Rome, pour faire plaisir à Paris, a déporté Jeanne sur les autels. Et le canard enchaîné en profite pour régler ses comptes avec Jeanne en disant que on a fait un article supplémentaire pour le traité de Versailles. Jeanne, désormais, avait été brûlée par les Allemands. Bon, ça vous montre un petit peu. Jeanne n'a pas fini. Jeanne va être ensuite récupérée par l'extrême droite. En 1939, lorsque Jean Zay, qui était ministre d'instruction publique de l'éducation nationale, qui était juif, qui était député maire d'Orléans, et qui a fait un travail admirable comme ministre de la culture sans avoir le titre sous le Front populaire, eh bien, des affiches vont dénoncer en Jean Zay un juif, un maçon, etc., dans la patrie de Jeanne, ce qui est insupportable à cette extrême droite. Et vous savez que Jean Zay sera assassiné par la milice pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la guerre, bien entendu, Vichy, les collaborateurs vont essayer de récupérer Jeanne d'Arc, puisqu'elle est la victime des Anglais. Des affiches montreront le bûcher de Jeanne avec la ville de Rouen en flammes sous les bombardements anglais en disant « les assassins reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes ». Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Jeanne, dès 1940, est dans le camp de la résistance. Et pour tous, elle représente la résistance à l'occupation. Cette fois-ci, l'occupant a changé. Ce n'est plus les Anglais, c'est les Allemands. Et le général de Gaulle est perçu aussi bien en France dans la résistance que chez les Américains. Il y a une magnifique couverture de Time qui montre le général de Gaulle encadré par Jeanne d'Arc et la liberté guidant le peuple. Je trouve que cette image est admirable parce que les Anglo-Saxons ont parfaitement compris ce que représentait la France libre, à la fois l'héritage de Jeanne d'Arc et en même temps l'héritage de la Révolution, l'héritage de libération de la Révolution. Donc Jeanne va sortir en quelque sorte de la guerre en résistante, malgré toutes les tentatives qui ont échoué des collaborateurs et de Vichy, et les transformations de l'Église au moment du Concile vont sans doute atténuer cette aura. Dans la mesure où elle est la résistante éternelle, eh bien, on n'en parle plus. Et c'est pour ça, je crois, c'est mon hypothèse, que comme après le Concile, on va bazarder en quelque sorte toutes les statues un peu sulpiciennes, on va aussi, l'Église va oublier Jeanne d'Arc, va un peu la bazarder. Toutes ces Jeanne d'Arc de plâtre qui étaient dans nos églises vont disparaître, vont être sacrifiées. Et le Front National pourra récupérer cet héritage il y a une trentaine d'années. Et la suite, on va la voir en images. En pensant simplement à une chose, c'est que, bon, j'ai pas pu montrer toutes les images de Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le Front National. C'est aussi un retour en force et de gens qui n'ont rien à voir avec le Front National. C'est les plus grands metteurs en scène, je pense à Schiaretti, mettant en scène la charité de Jeanne d'Arc, de Peggy. Peggy est aujourd'hui revenu, et on ne s'en plaindra pas, revient en force, et ça n'a strictement rien à voir, vous en doutez, le Front National. C'est Jeanne d'Arc dans la littérature. Michel Tournier avait consacré un magnifique récit à Jeanne d'Arc. Bon, et nous avons aussi le cinéma, Luc Besson, Jacques Rivette aussi, il y a une quinzaine d'années, Jacques Rivette avait fait un très beau film sur la mission de Jeanne d'Arc. Donc, montrer le Front National, je crois que c'est privilégier un aspect qui me paraît non pas mineur, parce que malheureusement, le Front National sait se faire entendre, mais je dirais qu'il n'est pas fondamental, qui n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul horizon de Jeanne d'Arc. Alors, je crois que le plus simple maintenant, c'est que je me taise, ou plutôt que je commande des images qui, souvent, sont intéressantes. S'il vous plaît. Alors, voilà une première image. C'est une image laïque, républicaine, qui vous montre un extraordinaire hôtel. C'est l'hôtel de la Patrie. Vous avez ici Vercingétorix, qui tient la main de Jeanne d'Arc. Et vous reconnaissez la Marseillaise de Rude, qui, en quelque sorte, scelle le mariage, si j'ose dire. Bon. Alors, c'est une vision un peu kitsch. C'était conservé à Ham, dans la Picardie, la ville où avait été enfermé le futur Napoléon III. Ça a été détruit, le monument a été détruit pendant la guerre de 70. Mais on a gardé le plâtre, et il est conservé au musée de Clermont-Ferrand. Et l'œuvre est devenue, on peut dire, une image très diffusée sous la Troisième République, notamment dans les manuels laïcs. Ce n'est pas une vision catholique de Jeanne, c'est une vision laïque. Et ce qui le montre, c'est que Vercingétorix lui donne la main. Vercingétorix, c'est l'image d'une France d'avant Clovis, sans Dieu et sans roi, puisque Clovis est un monarque baptisé. Vercingétorix, c'est un noble, mais qui est choisi par les Arvernes pour diriger la résistance à César. Donc on considère que c'est la première élection, en quelque sorte, démocratique. Bon, on peut discuter, mais enfin, le symbole est là. Et Jeanne d'Arc représente ici la sainte de la patrie, associée, reprenant le flambeau de Vercingétorix, luttant contre l'invasion, la nouvelle invasion. La Marseillaise de Rude rappelle, évidemment, les soldats de l'an 2, vous avez d'ailleurs Vatigny, Fleurus, les victoires de la Révolution, Valmy. Donc on a une vision globale de l'histoire, qui est celle de la vis, qui est celle des livres de lecture dont je vous ai parlé dans un instant, qui mélange à la fois le patriotisme et la grandeur de la République. Alors, deuxième image, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, chose intéressante, c'est une image d'un manuel catholique. Attier est catholique, mais un second qui est un auteur modéré. C'est un Lavis. On a dit que c'est un Lavis catholique. C'est pas un excité. Et intéressant, il reprend une image qui est une véritable icône. Je vous disais comment, je m'étais interrogé au début de cette conférence, comment va-t-on passer du romantisme à la diffusion des mythes historiques dans la société française. Eh bien, vous avez là l'image. Vous avez le tableau, la Jeanne d'Arc qui est là, est issue d'un tableau très célèbre de Ingres, conservée au musée du Louvre, qu'il a peinte sous la monarchie de Juillet. Eh bien, ce tableau va inspirer des couvertures de cahiers de livres scolaires. On le retrouve aussi inspirant des statues. Je n'avais repéré une en Lozère, qui voit une fontaine qui représente Jeanne d'Arc, sortie du tableau de Ingres. Voilà comment Ingres, parfois cité, parfois non cité, va inspirer les représentations des catholiques et des laïcs. Ici, c'est une représentation catholique. Et ce qui fait penser au catholicisme, c'est la couronne posée sur un coussin à côté d'elle. C'est une image en général qu'on retrouve moins souvent. On va retrouver la Jeanne d'Ingres, mais dans les manuels laïcs, la couronne a disparu. normal, nous sommes dans des livres républicains. Image suivante. Alors, vous remarquez ici, nous sommes chez Larousse, Claude Auger, Maxime Petit. Même représentation, bon, elle est tournée de manière différente, ça c'est le hasard, mais vous remarquerez qu'elle a un casque à ses pieds et qu'il n'y a pas de couronne, c'est ce que je vous disais. Là, nous sommes en présence, c'est le signe infaillible. Si on ne sait pas ce que Hattier est un auteur, bon, Hattier existe toujours, mais aujourd'hui n'a plus de dimension confessionnelle, bien sûr. Mais à l'époque, ça en a une. Si on a un doute, la présence ou l'absence de la couronne royale nous permet de voir infailliblement à quel camp appartient le manuel. Donc là, livre républicain qui donne une vision républicaine de Jeanne d'Arc. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà un livre de Hachette très républicain, le livre de Aymar, qui a été publié au début du siècle, et qui va avoir une diffusion, une postérité très longue, puisqu'il va être diffusé jusque dans les années 60, quand je suis en culotte courte à l'école primaire, c'est le livre que j'ai entre les mains. Mais beaucoup plus tard, bien entendu. Chose intéressante, vous avez là la reproduction d'un tableau qui est produit, qui est présenté, qui est conservé au musée d'Orléans. Et là, nous avons aussi une version laïque. C'est Gert Rumage qui m'en a fait la remarque, je lui dois cette remarque, il a tout à fait raison. Si vous observez bien les acteurs, c'est Jeanne d'Arc qui rentre dans Orléans, elle a réussi à franchir, à tromper les Anglais, elle rentre acclamée parce que tout le monde a compris qu'elle allait libérer la ville. Vous remarquerez que le peuple qui l'acclame, il y a des soldats derrière, il n'y a pas un ecclésiastique. Ni un religieux, ni un prêtre, pas un ecclésiastique. C'est vraiment l'image laïque de Jeanne, émanation du peuple, c'est la fille d'une bergère, fille d'un paysan de Lorraine, et qui est en communion avec le peuple. L'Église est en quelque sorte évacuée, elle est absente, alors que si nous avions un manuel confessionnel, ben nous aurions des moines, nous aurions des évêques, etc. Quand on va voir des évêques sur des représentations laïques, ça sera pour dénoncer la présence de cochons en disant, voyez, Cochon est le responsable de la mort de Jeanne. Alors, image suivante. Alors, voilà une image très intéressante qui résume, je dirais, j'ai parlé des passions politiques françaises. Mais voilà, cette image, elle seule, résume les usages politiques de Jeanne d'Arc dans la France contemporaine. Alors, c'est une carte postale. Vous pouvez vérifier, la chapelle est aujourd'hui dans la cathédrale de Lille. C'est une chapelle Sainte-Jeanne d'Arc qui a été créée au début du XXe siècle, lorsque probablement Jeanne d'Arc a été béatifiée, ou en tout cas un petit peu avant, mais c'est à peu près du XXe siècle, et ça n'a pas changé. C'est une vision, cette chapelle est consacrée au roi de France, à une vision providentielle. Au bas de l'autel, ce que vous avez, on le distingue mal, c'est le vœu de Louis XIII. Donc vous avez là une atmosphère religieuse et providentielle. Le ciel protège la France, et Jeanne d'Arc a sauvé le royaume de France. Alors, vous avez la statue qui est au sommet de l'autel, donc déjà, dans cette chapelle consacrée à l'histoire, elle est vraiment au centre des débats, c'est elle qui concentre l'attention. Mais remarquez bien ce qu'elle a le long du corps, elle a une épée. Et l'épée n'est pas l'épée d'origine, c'est pas une épée du sculpteur, c'est une épée qui lui a été offerte. Et cette épée a une histoire intéressante, que je vous résume en deux mots. Vous savez qu'en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc les communes sont devenues propriétaires des églises, les grandes villes propriétaires des cathédrales. Bon. Et automatiquement, puisqu'il y avait une transfert de propriété, il fallait faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans les églises. Bon. Et dans bien des cas, les catholiques ont considéré que c'était indigne, que c'était un sacrilège de voir des laïcs venir, des gens de l'enregistrement, des percepteurs venir faire un inventaire, ne serait-ce que symbolique, de ce qu'il y avait. D'autant que certaines circulaires ministérielles avaient dit « on n'hésitera pas à prendre dans le tabernacle un calice et de compter les hosties ». Certains pensaient que ça avait été de manière provocatrice. Bon, je peux vous dire que c'était évidemment un sacrilège. Bon. Et donc certains catholiques sont barricadés, ont empêché, dans les Pyrénées il y a eu des ours qui gardaient les églises, dans le nord il n'y a pas d'ours bien entendu, mais il y a eu une petite église où on a fermé les portes, et on a donc requis la force publique, il n'y a pas de gendarmerie à l'époque, c'est les soldats, les officiers ont été invités à enfoncer les portes, il y en a eu dans l'Hérault, il y a des photos qui montrent des églises avec les portes enfoncées, et certains officiers ont refusé de faire ce travail, et ont préféré briser leur épée, et démissionner de l'armée plutôt que d'accomplir ce qu'ils estimaient contraire à leur conscience. Et alors, un des officiers qui avait fait ça s'est vu remettre par des grandes dames de la bourgeoisie de Lille, de la bourgeoisie lilloise, une épée d'honneur pour remplacer la fameuse épée brisée en 1906 lors des inventaires. Et lorsque Jeanne d'Arc a été béatifiée par Rome, eh bien, cet officier a offert cette épée d'honneur à Jeanne d'Arc, et c'est l'épée que vous avez sur le long, qui est sur le long de son corps, qui est toujours en place. Dans, je répète, ce qui est devenu la cathédrale de Lille. Et je crois que ça vous résume bien les usages, le moment où Jeanne d'Arc, après l'affaire Dreyfus, bascule dans le camp confessionnel. Monseigneur Dupanloup, imaginez bien que les trois étapes de la canonisation, la vénérabilité, la béatification, la canonisation aboutirait à permettre à l'Église de récupérer son bien, si j'ose dire, eh bien, c'est bien ce qui s'est passé. Et vous pouvez le vérifier encore aujourd'hui, puisque depuis un siècle, cette chapelle n'a pas changé, qu'on peut vérifier, on peut aller rendre visite à cette Jeanne d'Arc. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, là, je pense que ça passe de commentaires. Vous avez là une pseudo-image populaire d'Épinal. Si je me trompe, M. Barral me corrigera. Don Rémy, Rouen, et vous avez derrière le maréchal Pétain, vous avez des scouts, vous avez les épis de blé, qui rappellent l'idéologie pétainiste du maréchalisme, la terre ne ment pas, enfin tous les slogans de la Révolution nationale, et Jeanne d'Arc, le maréchal Pétain, est présenté en quelque sorte comme la résurgence de l'héroïne. On avait vu pendant la Grande Guerre des images semblables qui présentaient Georges Clémenceau, mais Clémenceau avait une autre dimension, bien entendu, j'ai besoin de vous le dire. Là, évidemment, c'est une image de propagande, tout simplement pour le régime du maréchal Pétain. Autre image, s'il vous plaît, voilà. Alors ici, nous sommes dans un manuel intéressant. C'est un manuel des frères des écoles chrétiennes qui se situe, je crois, bon, c'est très difficile de les dater parce que souvent, c'est des manuels qui se répètent pendant 20 ou 30 ans, mais je dirais que c'est un manuel de la fin des années 50. C'est-à-dire que ce que vous avez dans les écoles confessionnelles d'avant le concile. Et là aussi, c'est pareil, quand on ne sait pas quel est l'éditeur, quand on ne connaît pas l'auteur, soit c'est anonyme, c'est les frères des écoles chrétiennes, eh bien, invariablement, le fait que vous ayez cette image, c'est-à-dire Saint-Michel, Sainte-Marguerite, qui apparaissent, Sainte-Catherine, qui apparaissent, j'allais dire, explicitement, en chair et en os, si j'ose dire, à Jeanne d'Arc, montre que c'est une image catholique, confessionnelle. Dans un manuel laïque, le ciel serait vide, et la légende dirait que Jeanne réfléchit, médite au malheur de la France, que c'est la voix de son cœur, que des voix intérieures l'ont poussée, mais ces voix sont celles de sa conscience. En aucun cas, vous n'auriez cette image. Donc, on date cette imagerie, cette iconographie, de la période d'avant le Concile, et après le Concile, la différence est très nette. Le contenu du livre a changé, il n'y a plus cette apparition dans le ciel, ça a été évacué. Les catholiques eux-mêmes ont fait le ménage, et désormais, simplement, on dit que Jeanne est envoyée par le ciel, mais sans autre commentaire. Voilà. Donc, c'est la dernière image confessionnelle datant des années 59-60. Voilà. Ensuite, s'il vous plaît. Alors ici, nous revenons dans ces années 70. Là aussi, c'est une tradition française de montrer Jeanne sous des traits des hommes politiques connus. Alors, j'ai bien peur que pour les jeunes, ça ne dise plus grand-chose, puisqu'à gauche, il y avait Jean Le Canuet. Jean Le Canuet est mort il y a déjà 20 ans, et on l'a un petit peu oublié, le Kennedy français, bon, Kennedy, si l'on veut. Et l'autre, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est mort lui aussi il y a déjà un certain temps. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber, on parle beaucoup du centre aujourd'hui, ben, les deux hommes, un petit peu comme Borloo aujourd'hui et Morin, si j'ose dire, se disputaient les voix du centre, déjà, c'était il y a 40 ans au moins, et on présentait Jean-Jacques Servan-Schreiber sous les traits de Jeanne d'Arc. C'est ironique, évidemment, parce que Jean-Jacques Servan-Schreiber sous les traits de Jeanne d'Arc, mais vous verrez qu'il y a d'autres personnages qui vont reprendre ces traits de manière assez cocasse. Voilà. Donc, petit rappel du Parti radical il y a 40 ans. Image suivante, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes en 1972. C'est Georges Pompidou, qui est donc, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance, vous le savez. Georges Pompidou a accepté la différence générale de Gaulle que l'Angleterre entre dans l'Europe, et évidemment, Jacques Faisan a montré que Jeanne d'Arc n'était pas de cet avis, et montre Jeanne sous des traits boudeurs, et Pompidou essaie de la séduire, de l'expliquer pourquoi il faut évidemment passer par là. Donc c'est Jacques Faisan que vous connaissez, le dessinateur du Figaro, lui aussi disparu également. Ensuite, là nous allons passer à l'époque contemporaine. Alors voilà, toute une série d'images dont vous connaissez en tout cas les tenants et aboutissants. Alors, elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est les années 80. C'est à partir du moment où, je crois que le premier défilé du Front National, c'est 78. Mais disons que c'est depuis 30 ans, ce défilé qui s'est pas produit parfois le 1er mai, parfois le 8 mai, parfois un autre jour, qui va voir donc récupérer, ou plutôt Le Pen essayer de récupérer une Jeanne qui ne s'en laisse pas compter. Car ce qui est intéressant ici, c'est que le dessin est de Plantu dans le monde et que Jeanne envoie se faire paître, si j'ose dire, le Front National, ne comptez pas sur moi pour bouter les immigrés hors de France. Et vous voyez la mine désappointée de Le Pen qui ne s'attendait pas à ça. Autre image, s'il vous plaît. Alors là, c'est un tract que on m'avait donné à Saint-Lazare, il y a une vingtaine d'années, en sortant de Saint-Lazare, on m'avait donné ça, et comme évidemment je m'intéresse à toutes les traces, j'avais gardé le tract parce que ça me paraît intéressant. Honneur à Jeanne, je crois que c'est 88 ou 89, je ne sais plus maintenant très bien. Mais vous remarquez, 10 mai, place de la Madeleine, etc. Les jeunes avec Jean-Marie Le Pen. Bon, malheureusement, ça fait 20 ans que ça dure. Vous savez comme moi. Ensuite, Alors là, c'est Le Pen lui-même, vraisemblablement dans sa maison de Saint-Cloud, qui est en train de, je sais pas, de lustrer, de peaufiner, de peindre une statue de Jeanne. Et vous verrez que non seulement il possède des statues en réduction, mais il possède aussi dans son jardin, on le verra sur une autre image, dans le jardin de la maison de Saint-Cloud, il y a la statue de Jeanne d'Arc qui est dans le jardin. Ouais. C'est dans ce qu'on appelle, je crois, le paquebot, c'est-à-dire le centre, le PC du Front National. Autre image, s'il vous plaît. Alors là, désappointement. Et l'image est intéressante parce que c'est Pubarut dans la croix. Ce qui montre bien que la ligne de la croix d'aujourd'hui, autant la croix a été au début du siècle, on le sait hélas, en première ligne pour dénoncer les juifs, pour montrer des caricatures avec des juifs au nez crochu, etc., autant la croix a été antisémite jusqu'aux années 20, voire 30. Bon, Pie XI remettant les choses en place, évacuant le secrétaire de la croix et mettant des gens, des démocrates à la tête du journal pour évacuer tout cet aspect odieux. Là, nous sommes dans les années 80-90 et la croix prend le parti de la démocratie contre Le Pen. Jeanne d'Arc, là, elle ne se contente pas de rembarrer Le Pen. À la manif anti-Le Pen, moi aussi, le dessin, je répète, apparu dans la croix dans les années 90. Et là encore, même désappointement du personnage que vous pouvez constater. Ensuite, alors là, nous sommes en 89, en 99, je crois que c'est au moment où Maigret, le félon Napoléon, va quitter le paquebot. Et donc, pas mal de cadres s'en vont. Le Front National se trouve dépourvu. Et donc, Le Pen, triste, c'est une caricature du monde, dénonce le complot et se réfère à Jeanne d'Arc. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Ensuite, alors voilà, je vais vous parler. C'est en 95, lorsque trois maires du Front National, Le Chevalier à Toulon, Bompard à Orange et Simon Pietri à Marignane, sont élus. Ils sont reçus en grande pompe à Saint-Cloud et ça apparut dans Libération en 95. Le Pen est fier de trôner, de parader devant la statue de Jeanne d'Arc, donc qu'il possède dans sa propriété. Alors, Le Chevalier, je crois, a été battu à Toulon, Simon Pietri à Marignane, mais je crois que Bompard est toujours présent en Vaucluse. Il me semble qu'il est toujours maire, peut-être pas sous l'étiquette du Front National, mais en tout cas d'extrême droite. Alors ici, une image particulièrement odieuse, puisque Charles de Gaulle, qui fleurit ici, est le petit-fils du général de Gaulle. Et qu'on peut se demander par quelle aberration il vient prêter main forte à Le Pen en sachant quand même que son grand-père a failli l'OAS, qui était quand même lié, parti lié à l'extrême droite, voulait la peau du général et au petit Clamart, ils ont été à deux doigts de l'avoir. Bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut lui permettre de rester quand même malgré tout dans ce parti. Donc vous avez là cette image de rue de Rivoli, donc Charles de Gaulle, fleurissant aux côtés de Jean-Marie Le Pen, la statue. Alors toujours, là cette fois-ci c'est la concurrence entre la droite et l'extrême droite. Plantu, c'est encore Le Monde, semble suggérer que Jacques Chirac et Le Pen finalement sont en concurrence pour savoir qui aura les voix de Jeanne d'Arc. Voilà. Alors ici je vous parlais des personnages qui ont été éventuellement identifiés. Vous avez eu tout à l'heure Jean-Jacques Savanchébert, quelqu'un que vous connaissez bien, lui, personnage aussi populiste, c'est Bernard Tapie. Et aujourd'hui, évidemment, ça prête à sourire parce que, bon, le personnage n'est peut-être pas aussi sympathique qu'il l'était autrefois. Le dessin est de Piem et apparu aussi dans La Croix. C'est également La Croix qui a publié ce dessin. Ensuite, autre dessin. Alors là, c'est 1996. Jacques Chirac a été élu président de la République et conformément, puisqu'il a été élu en 96, donc conformément à la tradition, l'année suivante, il ira à Orléans pour saluer Jeanne d'Arc. Donc la Piem dans La Croix le montre en quelque sorte, toujours cette identification à un autre personnage que Jeanne d'Arc. Ensuite, voilà, alors là, c'est ce que je vous disais, l'année suivante, l'année qui suit l'élection du président, c'est une tradition non écrite, le président se rend à Orléans pour saluer Jeanne d'Arc. Le général de Gaulle l'a fait une fois, Pompidou ne l'a jamais fait, Giscard d'Estaing, la première année, je crois, avait envoyé sa femme, puis est allé ensuite, et François Mitterrand a scrupuleusement respecté la tradition et est allé la première et la deuxième fois, à chaque élection, donc la première fois en 82 et la deuxième fois en 89. Il a honoré Jeanne d'Arc à Orléans. Jacques Chirac a refait la même chose. À ma connaissance, je me trompe bien, mais je crois que Nicolas Sarkozy n'est pas allé à Orléans. Enfin, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Voilà. Alors ensuite, nous passons dans un nouveau cycle. Je m'empresse de dire que je ne prends pas parti pour le vote des primaires. Ça n'a rien à voir. C'est dans le sujet du thème, c'est-à-dire les héros, mais chacun est libre de préférer Martine Aubry ou François Hollande ou Manuel Valls, soit notre, à Ségolène, bien entendu, ça n'a rien à voir. Alors, vous remarquez évidemment, ce qui est amusant, c'est que c'est toujours le tableau d'Ingres qui est ressorti cette fois-ci. pour la campagne de Ségolène. On voit derrière des personnages, vous avez Arnaud Montebourg qui est représenté, qui doit représenter un des chevaliers. Vous avez François Hollande qui est encore son mari, son compagnon à l'époque. Bon, et puis vous avez les têtes de Fabius et de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'ils ont été les grands battus de la primaire de l'époque. Voilà. Je n'insiste pas, pour le reste, chacun votera en son âme et conscience, bien entendu. Alors, autre image, c'est Ségolène à cheval face à Bérou qui peine à la suivre sur son tracteur. La plupart des dessins qui sont là sont des dessins du Canard enchaîné, ce qui vous explique, c'est Cabu. Là, je crois que c'est Cabu aussi, donc le ton n'est pas le même que celui de Plantu ou celui de Piem ou celui d'autres dessinateurs. Donc là, nous sommes en 2007. Autre image. Alors là, c'est au congrès de Reims, c'est à l'année suivante. Sainte Ségolène en croisade, fraternitude, avec les voix du ciel, je suis largement majoritaire. C'est pour faire allusion, évidemment, au fait que il y aurait eu des tricheries, vous savez qu'on aurait quelque peu bourré les urnes en faveur de Martine Aubry. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça chacun se prononcera, mais Ségolène estime en effet qu'avec les voix du ciel, elle aurait dû être secrétaire du Parti Socialiste. Voilà. Là, c'est plutôt la dépitude, si j'ose dire, puisque là, c'est une concurrente, c'est Ingrid Betancourt après sa libération, qui passe devant Jeanne d'Arc Ségolène, toujours pareil, et qui lui prend la place. On verra tout à l'heure que les héros évoluent, que chacun a son heure de gloire, mais que ce n'est pas toujours l'image. Et la dernière, ben justement, c'est Ingrid Betancourt. C'est une image, c'est une publicité qui a paru dans le Monde et qui montre, qui associe Jeanne d'Arc et Ingrid Betancourt. Et là, vous retrouvez, c'est un petit peu la boucle est bouclée, je l'ai choisi cette image pour terminer, parce que vous retrouvez là le tableau d'Orléans, l'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans. Vous savez, ce tableau du manuel Aymar de Hachette. Simplement, là, on a mis en quelque sorte le zoom sur Jeanne d'Arc toute seule. Mais si vous voulez voir le tableau, vous allez au musée d'Orléans, qui est un très beau musée, et vous trouverez là pas mal de représentations mythologiques de Jeanne d'Arc, de tableaux, puisque la ville, évidemment, continue à garder. Il y a un très beau centre de Jeanne d'Arc à Orléans aussi, qui fait des expositions sur Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, je vais terminer rapidement ma troisième partie pour vous laisser la parole, parce que c'est à vous aussi, vous avez peut-être des questions à poser. Comment les Français ont-ils reçu, intériorisé, ce panthéon? Est-ce que ça a marché? Alors, la réponse est oui. Déjà, certains disent qu'en 1914, les Français sont partis la fleur au fusil, je n'y crois pas. Mais en tout cas, c'est un fait que, à la différence de la guerre de 70, les Français, quand même, par le Petit Lavis, par le Tour de la France par deux enfants, 6 millions d'exemplaires vendus, un livre qui était présent dans les établissements confessionnels et laïcs, eh bien, a effectivement eu quand même un poids énorme, un poids considérable. Alors, comment peut-on vérifier aujourd'hui comment les Français apprécient leurs héros? Il y a deux éléments. Il y a d'abord la multiplication des biographies sur des héros. Je prends un exemple, Georges Clemenceau. Lorsque j'étais étudiant en 1974, il n'y avait pas une biographie disponible de Georges Clemenceau. Ou plutôt, il y en avait une. Elle avait été écrite par un professeur anglais, par un universitaire anglais, le professeur Watson. C'était une excellente biographie, mais qui était en anglais, qui était publiée à Londres et qu'il fallait donc traduire soi-même. Bon. Et il y avait sinon quelques hagiographies qui étaient épuisées depuis longtemps, de compagnons de Clemenceau, mais qui étaient tous des livres hagiographiques. À l'époque, l'école des annales avait frappé, disons, de suspicion le genre biographique, et les universitaires n'avaient pas l'habitude d'écrire des biographies. Ce qu'ils feront par la suite. Jean Tullard publiera des biographies de Napoléon, et Jean Favier publiera des biographies de Philippe le Bel, etc. Mais là, nous sommes à une époque où ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, si vous allez chez Sorams, vous pouvez disposer peut-être de 4 ou 5 biographies, peut-être plus, de Clemenceau, et faites par des universitaires. La dernière, par Michel Vinocq, est remarquable. Françoise Giroud elle-même a écrit un récit qui n'est pas savant, qui est plutôt un coup de cœur, Cœur de tigre, qui est un hommage personnel à Georges Clemenceau, parce que je crois que son père l'avait bien connu. Mais vous avez aujourd'hui à votre disposition une quantité de livres sur Georges Clemenceau, alors que, je répète, il y a simplement une quarantaine d'années, il n'y avait strictement rien. En 1949, Georges Clemenceau fait partie des héros, mais c'est partie de ces gens qui ont été éclipsés par les héros de la Résistance. Et on parle très peu de lui dans le sondage de 1949. Aujourd'hui, Georges Clemenceau fait partie des héros appréciés des Français. Alors, pour quelle raison? Peut-être parce qu'il a été le premier homme de gauche à affronter le réel et que, avec les deux septennats de Mitterrand, eh bien, la gauche, en quelque sorte, comparée, Mitterrand se référait lui-même beaucoup à Clemenceau. Ils étaient arrivés au pouvoir très âgés, ils avaient rencontré des difficultés, etc. Et on peut se demander si cette expérience vécue par Georges Clemenceau n'avait pas été la préfiguration de celle de François Mitterrand. Il y a aussi d'autres raisons. Clémenceau a été un défenseur de Dreyfus et un des premiers défenseurs de Dreyfus. Et il a publié des articles très importants comme ceux. C'est lui qui est à l'origine du J'accuse de Zola. C'est lui qui a donné à cet article de contestation de Zola le titre fameux J'accuse, qui a donné une ampleur extraordinaire et qui a certainement contribué à innocenter le capitaine. Enfin, on le sait aujourd'hui, Georges Clémenceau était l'ami de Claude Monet. Et Claude Monet aujourd'hui est considéré comme un des plus grands artistes de notre temps. L'an dernier, l'exposition Monet au Grand Palais a attiré 1 million de visiteurs, ou presque. Et les œuvres de la correspondance entre Clémenceau et Monet est publiée, est connue. Les fameux nymphéas qui sont aujourd'hui à côté, qui sont sur le à l'orangerie des Tuileries, par exemple, c'est Clémenceau qui a obtenu de Monet qui les donne à la France. Donc, je crois que tous ces éléments ont contribué à réévaluer le poids mythologique de Georges Clémenceau, alors qu'il était un peu inconnu. Saint-Louis, en 1949, ne fait pas partie des héros des Français, ou plutôt si, il fait partie des héros des catholiques. Mais le clivage entre catholiques et laïcs est très fort à l'époque, fait qu'il ne peut pas être un héros consensuel. Aujourd'hui, il apparaît comme un héros consensuel, parce que la querelle laïque s'est épuisée, on s'en plaindra pas, et puis aussi parce que le Moyen-Âge a été réhabilité. Les travaux de Georges Duby, de Jacques Le Goff, nous disent tous que le Moyen-Âge n'a rien à voir avec cette période d'obscurantisme, de barbarie, comme le disaient les manuels scolaires de l'époque de la Troisième République. Aujourd'hui, quiconque dirait que le Moyen-Âge est une période d'obscurantisme passerait pour obscurantiste lui-même. Et je pense que ça est permis de réévaluer Saint-Louis, auquel Jacques Le Goff lui-même, qui était de l'école des annales et qui avait toujours juré qu'il n'écrirait jamais de biographie, a publié un très beau livre sur Saint-Louis, justement, qui est beaucoup plus qu'une biographie, d'ailleurs. Donc, vous le voyez, les conditions politiques expliquent souvent que des personnages qui étaient sur le pavois, aujourd'hui, sont oubliés, et qui étaient oubliés, sont sur le pavois. En 1949, Marie Curie est quasiment inexistante. En 1980, elle est une héroïne qui est préférée des Français, et surtout des Françaises, et qui passe devant Jeanne d'Arc, qui double Jeanne d'Arc. La question qui a été posée à l'époque, par ceux qui ont fait le questionnaire dans l'histoire, c'était une question ouverte. Si vous deviez choisir un héros, qui choisiriez-vous? Et les femmes qui ont répondu ont mis en place, à juste titre, non pas Jeanne d'Arc, parce qu'elles ne s'intéressaient plus, elles se ne reconnaissaient plus dedans, elles ont mis Marie Curie. Parce que Marie Curie, effectivement, est une femme d'action, première femme à être professeure à la Sorbonne, première femme à recevoir un prix, alors peut-être pas première femme à recevoir un prix Nobel, puisqu'il y a eu d'autres, mais en littérature, mais première femme scientifique, et encore aujourd'hui, je crois que c'est unique, première femme à recevoir 2 prix Nobel scientifiques. Je crois que ça ne s'est jamais vu après. Donc, on voit ici dans Marie Curie, dans ce retournement de Marie Curie, l'évolution de la société, une évolution positive, bien entendu. Donc, je crois que ces manières d'apprécier, elles nous montrent aussi l'évolution. Deux aspects pour terminer. En 1949, Robespierre est porté au pinacle. C'est un des héros préférés des Français parce que le Parti communiste fait plus de 25% des voix. Aujourd'hui, Robespierre est toujours numéro 1, si j'ose dire, mais parmi les personnages les plus détestés des Français. Parce que le mur de Berlin est tombé, que le Parti communiste a été réduit à comme peau de chagrin. Rappelez-vous, il faisait 25% des voix en 49. Aux dernières élections, Marie-Georges Buffet faisait moins de 2% à la présidentielle. Et je crois que l'image de Robespierre est évidemment conditionnée. En 1949, le général de Gaulle qui s'est retiré du pouvoir est très peu cité dans les enquêtes ouvertes. On l'a oublié. Aujourd'hui, depuis 10 ans, il écrase toute la concurrence et on ne s'en plaindra pas. Ma conclusion, je l'emprunterai tout simplement à Montpellier. Le Panthéon d'aujourd'hui, Georges Clémenceau, Jean Jaurès. Jean Jaurès aussi, en 1949, souffrait de la concurrence de Robespierre. Aujourd'hui, la gauche démocratique l'a largement emporté et c'est lui qui est largement en tête alors que Robespierre est à la traîne. Georges Clémenceau, Jean Jaurès, Charles de Gaulle, Napoléon. Vous avez là le Panthéon sans doute de notre regretté Georges Frêche, dont je vous rappelle qu'il a, sur la place de la Révolution, tout près d'ici, réconcilié en quelque sorte les hommes de la Révolution, les acteurs eux-mêmes et les Français avec ces acteurs, et qui rappelait lui-même avec gourmandise qu'il aurait aimé dans une autre vie être Murat menant la charge à Austerlitz. Je vous remercie de votre attention.